Pour célébrer le 2 novembre, l'Église nous donne aujourd'hui des textes, dont tout d'abord celui de la sagesse. Et en l'entendant, on peut avoir quelque inquiétude, puisqu'il s'ouvre sur la question des âmes des justes. Et aujourd'hui, nous prions pour ceux qui sont morts, dont nous ne connaissons pas avec certitude l'état actuel. Nous ne savons pas s'ils sont auprès de Dieu, nous ne savons pas s'ils sont au purgatoire. L'Église n'a jamais mis personne en enfer, à l'exception des anges déchus. En fait, ils s'y sont mis tout seuls. Et j'y reviendrai peut-être tout à l'heure si j'y pense, question de l'enfer. Et donc, les âmes des justes, oui, mais voilà, moi, je ne sais pas qui, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, mes amis, est-ce que c'était des justes? Donc en fait, je crois que ce qu'il faut comprendre là, c'est qu'à partir du moment où une âme est devenue juste, elle est dans la main de Dieu. L'a-t-elle été de son vivant? Nous ne le savons pas. Sauf pour les saints canonisés, là on en est sûr. Hein. Ou bien est-ce que c'est au terme d'une purification? Quoi qu'il en soit, ils sont dans la main de Dieu. Et dès lors, il ne peut plus rien leur arriver de néfaste. Alors, le thème ensuite du livre, enfin de la lecture, de la sagesse ici, est précisément de montrer combien... la foi en l'immortalité, en la certitude de voir Dieu un jour, donne sens à notre vie. Paul dira, si nous ne ressuscitons pas, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Voilà. Je pense à quelqu'un que je vois de temps en temps, pour des soins, et qui me disait, non, moi je ne crois pas en Dieu, mais je pense qu'après la mort, il y a quelque chose. Voilà. C'est intéressant de voir quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, mais qui a cette certitude que ça ne s'arrête pas comme ça. Donc voilà, ensuite, c'est décliné, hein, les faibles peines, il faut voir, hein, parce que c'est pas forcément vrai pour tout le monde. On les a éprouvés, etc. Mais ceci dit, cette lecture nous laisse un peu penser à la description des saints qui ont donné leur vie, quoi. Saints de l'Ancien Testament, mais quand même. Voilà. Je pense que ça ne recoupe pas absolument tous les... On ne peut pas forcément y mettre tous nos défunts, quoi, en se disant, oui, il a quand même fait des trucs, je ne sais pas trop. Alors la vraie question, c'est de savoir si on a eu la foi, si on a essayé de chercher Dieu. Il faut s'entendre, hein, il peut y avoir des gens qui ont combattu l'Église pour de bonnes raisons, parce qu'ils ont cru qu'eux. Je pense à un monsieur d'une cinquantaine d'années qui est mort d'une crise cardiaque et qui était très opposé au baptême de sa fille, parce que pour lui, l'Église était une multinationale. Dans ce sens-là, il avait raison de s'y opposer. Bon, il s'est trompé sur ce qu'était l'Église, mais vous voyez, il y a cette idée de... On peut se tromper de bonne foi. Alors, ce texte s'achève par quelque chose d'assez intéressant, que vous ne savez peut-être pas. À la fin, qui met en lui sa foi comprendra la vérité. Ceux qui sont fidèles resteront, dans l'amour, près de lui. Voilà ce que nous lisons à la messe, le texte officiel. Or, c'est pas si clair que ça. C'est-à-dire que, en fait, dans le texte, il y a écrit « Ceux qui sont fidèles, dans l'amour, resteront près de lui. » Donc, est-ce qu'ils sont fidèles dans l'amour? Ou est-ce qu'ils sont fidèles et dans l'amour, ils resteront auprès de lui? Alors, je vais jouer un peu avec ça pour rappeler précisément que c'est sur l'amour que nous serons jugés. Donc, finalement, ce mot amour, on voit bien qu'on ne sait pas très bien où le mettre. Alors les traductions habituelles disent non, 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 ceux qui sont fidèles resteront dans l'amour avec lui. Oui, qu'est-ce que ça veut dire au fond? Bon. C'est une formule curieuse qu'on n'a pas ailleurs dans l'Ancien Testament, si vous voulez. C'est là où. Voilà. Alors que la fidélité dans l'amour, ça peut avoir du sens. Mais de la fidélité par rapport à quoi, de qui, de quoi, ceux qui ont. C'est pas très évident. Alors, j'évoquais tout à l'heure la question de l'enfer. La définition de l'enfer, c'est très très simple. Un docteur de l'Église, Catherine de Sienne, si je ne m'abuse, disait que les portes de l'enfer sont grandes ouvertes, mais que les damnés ne veulent pas en sortir. Ce qui permet de dire, donner cette définition de l'enfer, c'est qu'en fait, l'enfer se résume dans cette phrase adressée à Dieu: je ne veux pas de l'amour dont tu m'aimes. C'est l'exacte définition de l'enfer. Je ne veux pas être aimé comme tu m'aimes. Et ils le refusent éternellement. Donc ils vont souffrir éternellement d'être aimés d'une manière dont ils ne veulent pas être aimés. C'est assez mystérieux, vous voyez. C'est assez curieux. Alors le purgatoire, c'est presque pareil, sauf que c'est pas éternel le purgatoire. Et en fait le purgatoire, je souffre de l'amour dont tu m'aimes, mais j'en suis heureux parce qu'un jour je vais te voir. Et je le veux. Vous voyez cette distinction qu'on peut, je crois, faire et qui permet de comprendre. Donc c'est pour ça que de dire, ceux qui sont fidèles dans l'amour, on sera jugé sur l'amour. Donc après tout, est-ce que... Bon, voilà, ensuite tout ça, c'est des traductions, c'est pas très très grave, mais c'est l'occasion de revenir là-dessus. Alors ensuite, nous avons donc la lettre de Saint Paul aux Corinthiens. Donc on a l'impression que pour Paul, bon bah c'est la fin des temps, quoi. Peut-être pour lui le retour du Christ était rapide, bon 2000 ans après, c'est pas exactement ça, hein. Mais néanmoins, on a bien cette idée que c'est le péché qui est la cause de la mort, hein. Il n'y a pas de question là-dessus. Alors j'en viens tout de suite à l'évangile. Où Jésus dit: tout ce que me donne le Père, tous ceux que me donne le Père viendront jusqu'à moi. Celui qui vient à moi, je ne vais pas le jeter dehors. Donc la question, c'est est-ce qu'on est venu à Dieu? Est-ce qu'on a répondu à la grâce de Dieu qui nous demandait de venir vers lui? Finalement, c'est ça la question, hein. Donc là où nous avons matière à nous inquiéter, c'est des gens qui ont vraiment refuser Dieu. Est-ce que c'est simplement possible? C'est un très grand mystère, hein. Voilà, mais on peut certainement refuser Dieu. Il y avait une possédée qui était allée voir un moine dans un autre monastère, avec ses parents d'ailleurs, et elle était disait: oui, je sais bien que j'irai en enfer, mais j'aurai une bonne place. Voilà, ça existe, des gens qui pensent ça. Alors, ils sont totalement trompés, mais ça existe. Donc, voilà, c'est l'occasion pour nous, cette journée, de vraiment de prier pour les morts. Vous savez qu'on prie pour les morts à chaque messe. Et quand vous priez, eh bien, ça peut être l'occasion de dire tel psaume, peut-être le psaume 50e du reste, ou 51e selon la numérotation qu'on a choisie, et de le dire au nom de celui qui, ou de ceux pour lesquels on prie. Oui, libère-moi du sang versé. Alors, ils n'ont peut-être pas versé le sang au sens propre du terme, mais voilà, ça, libère-moi de toutes mes fautes, libère-les de toutes leurs fautes. Ça peut être notre manière de prier pour ces morts, de nous faire des amis, entre parenthèses. Parce que les âmes du purgatoire ne sont pas chiches, hein. Elles peuvent intercéder pour nous, mais elles ne peuvent plus rien pour elles. Donc elles attendent de nous que nous les aidions à sortir de ces purifications qui sont douloureuses, même si elles savent qu'elles sont sauvées, c'est douloureux. Et par contre, elles ont le pouvoir, Dieu leur donne le pouvoir de faire quelque chose pour nous. Donc c'est déjà nous retrouver avec eux, c'est déjà orienter notre vie dans cette communion de l'amour, précisément. Hein. Donc c'est quand même quelque chose de très très beau de prier pour les morts. Vous savez que c'est quelque chose qui est né au XIIe siècle, je crois, avec les moines bénédictins qui ont instauré les prières pour les morts, hein, à Cluny notamment. Enfin, Cluny, c'est antérieur, mais voilà, ça a été originé par les moines, cette prière pour les morts, en sorte que nous soyons réunis tous ensemble auprès de Dieu. Voilà, et ayons confiance dans cette parole de Jésus. Hein, le Père lui a demandé de ne perdre aucun de ceux qu'il lui a donnés. Donc, vous voyez bien, il y a ce drame, c'est que, en fait, nous sommes tous donnés à. Le Père nous a tous donnés au Christ, mais le Christ n'est pas toujours annoncé. Donc, certains ne peuvent pas savoir. Ça ne veut pas dire qu'ils ne seront pas sauvés. Pas par, j'allais dire, les moyens normaux. Si vous voulez, pour le dire autrement, je crois que je sais plus si c'est dans Nostra Aetate ou Agentes, un de ces deux documents du Concile Vatican II, on dit que ceux qui, sans faute de leur part, n'ont pas connu l'Évangile, peuvent être sauvés, non pas par leur religion, mais dans leur religion. Autrement dit, il n'y a qu'un seul salut, hein. N'en déplaise aux syncrétistes, en dehors de Jésus, il n'y a pas de salut. C'est dans l'Évangile. Hein. On ne peut pas être sauvé en dehors de l'Église. Alors, ça ne veut pas dire en étant membre de l'Église, mais Jésus étant la tête de l'Église, il est inséparable de son corps. Hein. Voilà, sinon, ce sera un cadavre. Donc, ça passe forcément par l'Église. Alors, comment est-ce que, par exemple, un bouddhiste qui n'a jamais entendu parler du Christ, peut-il être sauvé par l'Église sans être dans l'Église? Ça, c'est une question théologique. Néanmoins, il peut très bien être sauvé. Il peut tout à fait être sauvé par le Christ. Comment ça se fait? Comment c'est possible? Comment ces actions peuvent être, ces actions bonnes peuvent être mises en valeur, valorisées? Alors, on pourrait dire, bah, à ce moment-là, c'est pas la peine de leur apprendre de leur parler de l'Évangile, ben si, parce que on leur permet de découvrir dès cette terre une vie spirituelle, de témoigner autour d'eux, de répandre cette bonne parole, voilà, on leur donne quand même la joie de connaître leur salut, de changer de vie, c'est un bonheur de vivre dans la foi, hein. Il faut quand même pas tout à fait l'oublier, c'est pas une pénitence, hein. Peut vous arriver le matin de vous dire, mais comment font les gens qui ne croient pas en Dieu? Pour moi, c'est une question récurrente. Je me dis, mais comment ils y arrivent, quoi? Comment ils arrivent à être heureux sans savoir que nous avons un créateur, sans savoir qu'il pense à nous, sans savoir qu'il nous aime, qu'il s'est donné pour nous, qu'il nous rencontre dès qu'on l'appelle, qu'on peut communier à lui. Qu'on le verra un jour, qu'on sera dans un bonheur éternel. Comment ils font? Bon, voilà. Donc en tout cas, prions pour ces morts avec assiduité, avec joie. Avec joie. Il ne s'agit pas simplement de les mettre un bouquet de fleurs sur une tombe. Hein. On le fait, mais on le fait avec cette certitude qu'on les reverra un jour. Et nous prions pour qu'on soit tous réunis. Et voilà, d'où toutes les actions que nous pouvons faire, les intentions de messe que l'on peut donner pour nos défunts. C'est important. Je vais finir cette longue homélie avec une petite histoire de Seigneur Santaine qui nous avait raconté ça. À l'époque, il était curé dans sa paroisse et puis. Voilà que des parents ont une fille qui fait de la moto à 20 ans, etc. Et qui meurt dans des circonstances assez glauques, assez bizarres, un peu plus ou moins satanistes. On ne savait pas très très bien de quoi il s'agissait. Bon, et la messe est célébrée dans une autre paroisse, la messe est célébrée. Bon. Et puis ils viennent voir ce curé centaine là pour lui dire, écoutez, voilà, on a quelque chose d'un peu bizarre chez nous. C'est que nous avons une photo de notre fille, on met des fleurs dans un vase et instantanément les fleurs fanent. Oh, truc un peu bizarre, quoi. Alors, bon, vous avez essayé, vous êtes sûr que c'est pas l'eau, enfin, vous avez les trucs classiques, non, rien à faire. Et puis ils apprennent que dans leur paroisse, il y a une autre famille qui a perdu un garçon dans des situations similaires. Donc ils vont le voir et disent, bah, écoutez, nous c'est pareil. Bon. Et vous avez fait quoi? Ben, on a fait dire une messe pour le repos de son âme. Une messe de délivrance pour le repos de son âme. Bon, alors ils vont voir Monseigneur, enfin le Père Centaine, ils font la même chose. Et au moment où pendant l'épître, il est lu que je ne veux pas que vous croyiez que les morts ne ressusciteront pas, etc. Enfin, les paroles de Paul, là, on entend un larcène épouvantable et comme un couperet qui tombe. Alors, il coupe le micro, bon, ça, tout s'arrête, il remet l'amplificateur, la messe se finit, rien de particulier. Très bien. Bon. Et puis, les gens s'en vont, il range sa chapelle, sa paroisse, son église. Et puis il découvre que devant le lambon où il y avait la lecture, il y avait un vase en albâtre qui était tranché en deux du haut en bas. C'est tout, l'histoire s'arrête là. Sauf qu'ensuite, les fleurs se sont plus fanées devant. Bon. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une messe, c'est quand même ultra puissant. Peut-être que cette fille était morte hors de l'état de grâce et qu'elle attendait qu'on la délivre. Voilà, c'est pour vous dire que la prière, c'est pas une blague. Alors, il n'y a plus qu'à.